Negro Spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.
Chers auditeurs, ce 23e épisode s'intitule « Prédique acteur », ce petit jeu de mots pour souligner l'importance des prédicateurs dans la libération spirituelle et donc concrète des esclaves. Mais qui étaient-ils? Quels étaient leurs pouvoirs? Nous avons déjà vu que certains grands planteurs avaient besoin, pour des questions pratiques, que leurs cochers sachent lire et écrire. Donc, quand un propriétaire autorisait la présence d'un prédicateur sur sa plantation, il nommait souvent son cocher. Ces prédicateurs noirs luttaient activement pour redonner vie à la dignité de leurs semblables. Je dis bien leurs semblables, et oui, leur fonction spirituelle ne leur épargnait pas d'être aussi travailleurs et esclaves eux-mêmes. Et ils devaient se borner à lire une sélection de passages bibliques, prônant surtout l'obéissance, l'abnégation et l'espérance d'une vie meilleure, mais exclusivement dans l'au-delà. Le chœur quelques hommes bien a chanté, je pourrais chanter pendant des millions d'années, je ne dirais pas tout sur le paradis. Sans plus attendre, voici un premier témoignage dont vous vous souvenez peut-être, celui de Jeff Calhoun, qui évoque son prédicateur. Les Blancs aidaient les prédicateurs et les cochers à lire et à écrire, un peu. L'oncle Billy, le jardinier, était notre prédicateur. La maîtresse avait trois magnifiques gros choux dans le jardin, et elle était toujours après Billy pour qu'il s'occupe bien d'eux. Un samedi soir, après l'office, Billy s'esquive et les coupe. Le lendemain matin, on a envoyé la cuisinière au jardin pour chercher des choux frisés pour la maîtresse, mais ils n'étaient plus là. La cuisinière se précipite vers la maison et le dit à la maîtresse. La maîtresse le dit à maître. Alors, il arrive en colère et dit « Qui a fait ça ?» La fille qui fait la cuisine dit que c'est Billy. Maître dit de faire venir Billy. Billy arrive à la maison et maître dit « Billy, tu es prédicateur. »
Oui, monsieur.
Billy, tu as coupé les choux frisés.
Oui, monsieur, j'ai pris des choux frisés.
Eh bien, Billy, tu es prédicateur, va me chercher la Bible. Et le maître lit, tu ne voleras point. Puis il donne la Bible à Billy et il dit, lis ça. Billy n'a vraiment pas envie de lire, mais maître l'oblige. Puis il engueule Billy à propos du vol. Finalement, Billy dit «
Et maintenant, maître, je peux vous montrer dans la Bible pourquoi je n'ai pas volé ?»
Maître lui dit de trouver le passage, et Billy le trouve et lit
« Tu récolteras ce que tu as semé. »
Be still, sois tranquille, continue à avancer, c'est Dieu qui combat pour toi. Voilà ce que scande le révérend Timothy Fleming et ses ouailles. En écho, par exemple, la lettre aux Philippiens chapitre 4. Ne soyez pas inquiets, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Nous parlons de prédicateurs plus que de prêcheurs, puisque les colons du Nouveau Monde étaient en majorité de culture protestante. Mais les deux termes recouvrent une réalité très proche. De toute façon, quel que soit le nom qu'il porte, c'est bien autour de lui, le prédicateur noir, que s'articule une grande partie de la vie communautaire sur une plantation. C'est un personnage de haute stature, comme le décrit W.E.B. Du Bois.
Le prédicateur est la personnalité la plus exceptionnelle que le noir ait développée sur le sol américain. Un chef, un politicien, un orateur, un patron, un intrigant, un idéaliste. Tout cela, il l'est. Et de plus, le centre d'un groupe d'hommes, qu'ils soient 20 ou 1000.
W.E.B. Du Bois naît en 1868, juste 3 ans après la fin de la guerre de sécession. Donc, il est noir libre. Il deviendra philosophe, historien, enseignant à Harvard. Il sera très actif dans la lutte contre les inégalités entre Américains blancs et noirs, riches et pauvres. Mais la valeur n'attend pas le nombre des années, et à 20 ans, il prophétise « Soit les États-Unis détruiront l'ignorance, soit l'ignorance détruira les États-Unis. »
Be still, Lord, if I to battle, be still. Lord, if I to battle, be still. Lord, if I to battle, Lord, if I to battle, if you just be still, keep on walking. Lord, if I to battle, keep on walking. Lord, if I to battle, keep on walking. Lord, if I to battle, Lord, if I to battle.
Un autre philosophe, mais aussi théologien et pasteur, Howard Thurman, ajoute le portrait intérieur du prédicateur noir.
Le prédicateur noir d'avant la guerre de sécession était l'acteur le plus efficace pour ouvrir aux masses de ses compagnons les portes de l'espérance. Pourtant, ses moyens d'action étaient très limités. Mais il était animé d'une vision pénétrante. La conviction que tout être humain était un enfant de Dieu, qu'il s'agisse de l'esclave ou du maître.
Chers auditeurs, dans l'épisode précédent, nous nous sommes quittés sur ce célèbre chant. Je ne vous l'avais pas présenté parce qu'aujourd'hui, je peux rebondir sur ce qui vient d'être lu par Emmanuel, de la conviction du croyant. Je cite « Tout être humain est un enfant de Dieu, qu'il s'agisse de l'esclave ou du maître. » Je vous propose donc d'observer le sens littéral de ce chant. Dieu tient le monde entier dans ses mains. Le vent, la pluie, le petit bébé. Il me tient, il te tient, mon frère, ma sœur. Il s'agit d'un des rares spirituoses de louange sur la création. Sa mélodie, tout en douce harmonie, porte aussi à la louange universelle. Et c'est pour ça qu'il a été repris par de très nombreux et très différents interprètes. Les références bibliques abondent, mais je vous propose d'écouter celle qui n'est pas la plus évidente, mais qui provient d'un livre que les esclaves avaient dû méditer, puisqu'il s'agit du livre de Job, chapitre 12. Et d'abord les versets 7 à 10.
« Mais interroge donc le bétail. Il t'instruira. L'oiseau du ciel, il te renseignera. Parle avec la terre. Elle t'apprendra. Ils te raconteront les poissons de la mer. » Qui ne sait, parmi tous ces êtres, que la main du Seigneur a fait cela ? Lui qui tient dans sa main l'âme de tout vivant et le souffle de toute créature humaine.
La correspondance est claire. Et maintenant, écoutez les versets qui précèdent, toujours dans Job chapitre 12, et versets 3 à 6.
Moi aussi, comme vous, je sais réfléchir. Je ne vous suis nullement inférieur. Je suis la risée du prochain. Moi qui appelle vers Dieu pour qu'il réponde. Objet de risée, le juste parfait. Au malchanceux le mépris, pense l'homme heureux. Un coup de plus à ceux dont le pied chancelle. Elles sont en paix, les tentes des pillards. Ils sont tranquilles, ceux qui provoquent Dieu et celui qui veut mettre Dieu en son pouvoir.
Ils expriment la tristesse, l'amertume, mais aussi témoignent de la lucidité de celui qui chancelle, se laisse gagner par le désespoir. Mais on sait que Job n'en restera pas là, car au verset 13 et jusqu'à la fin du chapitre, Job clame la grandeur de Dieu. Il reste confiant en la justice divine. Au verset 13, « En Dieu, sagesse et puissance, à lui conseil et intelligence. » Il déverse le mépris sur les notables, dénoue le ceinturon des forts. Il ôte l'intelligence au chef de la populace, les égare dans un chaos sans chemin. Là, il tâtonne dans les ténèbres, sans lumière, égaré, comme des ivrognes. Oui, Job a tenu bon car, comme le dit Matthieu au chapitre 24,
« Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. »
Et Jean, dans sa première épître, « Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. » puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
Vous écoutez Negro Spiritual du cri au chant présenté par Marika Wadek.
Et Bruno Chenu indique que si certains prédicateurs noirs animaient aussi les assemblées blanches et y obtenaient de vrais succès, le genre du sermon peut varier. Une différence se marque particulièrement au niveau du contenu quand les oreilles blanches ne traînent pas dans les parages. Mais une différence qui tient aussi au rythme et à la musique de la parole, à l'intonation de la voix. Car le sermon noir est affaire de musique autant que de parole. Il introduit dans un rythme qui comporte un crescendo, qui fait entrer dans l'expérience du mystère, qui débouche sur l'exultation collective. Cette parole en rythme touche la communauté au cœur, et celle-ci se met à danser ses émotions. Le sermon est une célébration collective, une expérience religieuse dialoguer, où chacun est transporté, au-delà de lui-même. Il n'est pas rare que le sermon débouche sur un chant. Always giving church suppers and then steal half the money. Oh, you church thieves, you gotta go to hell on a black diamond train. Next station is Potter's Gave. Stop that and all the church... Bruno Chenu poursuit.
Et certains soutiennent que les spirituals sont nés de la prédication comme étant son prolongement naturel. Le prédicateur est le médiateur de la puissance de l'esprit au sein de sa communauté. D'un geste, d'une inflexion de la voix, il peut faire passer son peuple de la joie à l'extase, de l'exubérance à l'hystérie. Un feu intérieur l'habite, qui ne demande qu'à se répandre et à brûler. Le contenu du sermon n'est évidemment pas indifférent. Mais parler d'un ordre transcendant, appelé ciel, n'est-ce pas déjà invité à mettre en question la légitimité des institutions présentes qui privent les enfants de Dieu de leur dignité?
Mais de qui dépendaient ces prédicateurs? Qui les ordonnait? Le témoignage sur l'oncle Billy nous a renseigné. C'est son maître qui l'a investi de cette mission. D'autres encore arrivent à s'imposer dans les plantations porté par un appel direct de Dieu, le vrai maître. Par exemple, le révérend Reed. Je ne suis pas un mathématicien, ni un biologiste, ni un grammairien, mais quand il s'agit de manier la Bible, J'abats les verbes, je casse les prépositions et je saute par-dessus les adjectifs. Je vous le dis, je suis un homme envoyé par Dieu.
I shall go to see what the end's going to be. I open my mouth to the Lord, and I won't turn back. I will go, I shall go to see what the end's going to be. I open my mouth to the Lord, and I won't.
Vous écoutez Negro Spiritual du cri au chant présenté par Marika Wadek.
I opened my mouth to the Lord. Proclame, j'ai ouvert ma bouche pour le Seigneur et je n'y renoncerai pas. On entend, entre autres, le psaume 55. Sur Dieu, donc j'exalte la parole. Sur Dieu, je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des êtres de chair ? On se doute que des personnages aussi inspirés, aussi flamboyants, étaient redoutés par les propriétaires pour leur capacité à galvaniser les foules. On sait que ceux qui veulent tenir la religion éloignée de leur propriété le font peut-être par manque de foi, mais à coup sûr, pour des raisons économiques. Les planteurs redoutent que le baptême fasse de leurs esclaves des êtres libres, légalement. Ils seraient donc dépossédés de leurs moyens de production. Déjà en 1685, Morgan Godwin, ministre anglican, envoyé pour observer les religieuses des colons anglais. Déjà en 1685, Morgan Godwin, ministre anglican, envoyé pour observer les mœurs religieuses des colons anglais, donne un titre sans équivoque au sermon qu'il va servir à ses compatriotes du Nouveau Monde. Le commerce, préféré à la religion, et Mammon, préféré au Christ. Il se fera l'avocat des Noirs demandant le baptême et dénoncera la grande négligence frôlant l'apostasie des colons anglais établis en Amérique. Ainsi, on aura plusieurs témoignages comme celui de Stephen Williams. Il se souvient du marché aux esclaves, où il attend son tour avec toute sa famille. Tous redoutent la séparation. Effectivement, une des sœurs, Marie, est vendue.
Je me rappelle que la nuit après la vente de Marie, les Noirs se sont réunis dans la cour du marché pour faire la prière. Ma mère était très religieuse, très religieuse. Et si jamais une âme est allée au paradis, c'est la sienne. Ce soir-là, maman et d'autres gens se sont rassemblés pour prier ensemble. Ils n'ont pas chanté parce que ça aurait attiré l'attention et le commandant ne permettait pas les réunions. Mais quelqu'un avait vu les gens en train de prier. Le lendemain, le commandant savait. Alors, il est venu dans la cour avec son fouet et il a mis tout le monde ensemble. Il a dit « Vous, les nègres, qui avez prié hier soir, sortez des rangs !» Tout le monde avait peur de se faire fouetter. Personne n'est sorti, sauf maman. Le commandant a dit à maman « Tu es la seule qui a dit la vérité, et je ne vais pas te fouetter parce que tu ne m'as pas menti. Je vais voir si je peux vous garder ensemble, toi et ton homme et tes autres enfants. » Maman est tombée à genoux et elle a remercié le bon Dieu devant le commandant. Le commandant a tenu parole et nous a vendus ensemble.
Un siècle plus tard, l'intérêt économique passe toujours avant l'obéissance à l'ordre du Christ. L'on entend en Matthieu, chapitre 28. « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La question sera cependant vite tranchée par la législation coloniale. Dès 1706, au moins 6 colonies avaient adopté des lois pour nier que le baptême change quoi que ce soit au statut de l'esclave. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, un propriétaire était libre sur sa plantation de négliger même le dernier sacrement, comme en témoigne Marie Gaffney.
Quand un esclave mourait, on creusait un trou, tout simplement. On construisait une barrière autour et on le mettait dedans. Pas de chant, pas de sermon, pas de prière, jamais à l'époque de l'esclavage. Maître disait « Eh bien !» C'était à peu près un nègre décent, je suppose qu'il ira au paradis. Et c'était tout ce qu'il y avait comme funérailles pour les Noirs en ce temps-là. On ne versait même pas de larmes parce que le mort, lui, était parti là où il n'y aurait plus d'esclavage. À l'époque, les esclaves ne pensaient qu'à ça, ne pas être esclaves, parce que l'enfer, c'était l'époque de l'esclavage.
The Negro's Complaint, cette complainte du nègre, a été écrite en 1820 par un prédicateur noir. Il commence par rappeler que Dieu aime pareillement tout humain. Mais il s'interroge sur le pourquoi de toutes ces souffrances et soupire après la venue d'un nouveau Moïse pour sortir de cette nouvelle terre d'esclavage. Et pourtant, ailleurs, un esclave fugitif, Josiah Henson, a pu entendre les versets de la lettre aux Galates, chapitre 3. « Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un, dans le Christ Jésus. » Josiah précise que c'est de la bouche d'un prédicateur blanc qu'il a reçu cette parole, et il précise comment il en a été déplacé.
Avec insistance, le prédicateur répéta les mots « pour tous ». C'était pour tous les hommes. Cette heureuse nouvelle, ce salut n'était pas pour quelques élus seulement. Il était pour l'esclave aussi bien que pour le maître. Même pour moi, parmi le reste, considéré par les autres comme capable de rien d'autre qu'un d'un travail non payé, mentalement et physiquement dégradant. Oh, le bonheur et la douceur du sentiment de se savoir aimé. J'aurais voulu mourir de joie à cet instant, et je me répétais à moi-même. Ce sauveur compatissant même, il baisse les yeux vers moi. Il est mort pour sauver mon âme, et il m'accueillera dans les cieux. J'ai été transporté d'une joie délicieuse. Il me semblait voir un être glorieux dans un nuage de splendeur souriant d'en haut. en contraste total avec l'expérience du mépris et de la brutalité de mon maître terrestre. Maintenant, je peux supporter toute chose, et j'étais sûr que, si seulement maître Riley le connaissait, il ne vivrait pas une vie aussi grossière, malfaisante et cruelle. J'étais englouti dans la beauté de l'amour divin. J'aimais même mes ennemis et je priais pour eux.
Chers auditeurs, nous sommes portés par la ferveur de Josiah et celle du cœur aussi. Avec l'âme bien ancrée dans le Seigneur, un grand merci pour votre écoute fidèle, ainsi qu'à Imanol pour les lectures inspirées et la conception technique. Negro Spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.